Oui, alors on va passer à la deuxième table ronde. On a un peu moins de temps que prévu, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses finalement qui ont été dites en creux par rapport au sujet qu'on veut traiter dans cette deuxième table ronde. Je vous rappelle que l'objet de cette table ronde, il consiste à dire que la réglementation, certes, est un exercice de conformité, et c'est un vrai chantier en soi, et vous l'avez démontré tout à l'heure au travers de vos interventions. Mais qu'il faut peut-être aller au-delà de la conformité pour réfléchir sur le côté transformatif de ces réglementations, transformatif au niveau des organisations, sachant, et je le répète, ce que j'avais dit en entrée, c'est que l'ambition de la Commission européenne est extrêmement élevée, et puisqu'elle veut faire des établissements financiers le fer de lance de la mise en œuvre de la politique européenne en matière dans le domaine du changement climatique et du changement écologique. Alors, on va demander un petit peu l'opinion des uns et des autres sur ces transformations, sachant que c'est certainement, on est au début de ce processus de transformation en loi, vous l'avez dit d'ailleurs, et on va passer à la première question que je souhaiterais vous poser. Vous la voyez apparaître à l'écran. La mise en œuvre de ces textes a-t-elle déjà entraîné des changements dans vos modes d'organisation? Vous avez parlé de des risques, vous avez parlé des systèmes d'information, vous avez parlé aussi, et c'est Karen qui en a parlé tout à l'heure, des aspects humains, qui ne concernent pas que les fonctions techniques sur la direction des risques et la direction des systèmes d'information, mais je pense qu'il y a aussi l'aspect humain à côté des forces de vente, avec un certain nombre de dispositions qui vont se mettre en route. Donc, quels sont donc, je répète, quels sont les changements que vous percevez qui sont déjà en cours, qui étaient certainement en cours avant ces transformations et ces nouveaux textes, et puis quelles sont les transformations que vous voyez à l'avenir. Voilà, tout ça dans un délai assez court. On va peut-être donner la parole aux assureurs. François, comment tu réagis par rapport à ça? Quelle est ta vision des choses? Ça peut être aussi les freins que vous voyez en interne pour la mise en œuvre de tout cela. Enfin, il y a les facteurs d'accélération, les facteurs positifs, mais il peut y avoir aussi un certain nombre de freins. Bonjour, tu m'entends?
Merci. Ouais, merci Michel. Alors, je ne pensais pas, il y a encore 3 ans, qu'on vivrait une période d'une telle accélération sur nos sujets. Il y a encore 3-4 ans, la production, la reporting, développement durable étaient effectivement un exercice, je dirais, intéressant, partagé, communicant. Là, désormais, on voit bien qu'on est dans le vif du sujet, puisque ça touche à tous nos processus et ça touche même l'organisation de notre industrie et la manière dont on va l'exercer désormais. Dans les années qui viennent. Et on voit bien que l'urgence hein, d'un certain nombre d'enjeux, je parle évidemment bien sûr du climat, mais on peut parler de la biodiversité, aujourd'hui n'est plus une option dans la tête de quiconque. Et donc, pas le frein, mais la difficulté dans l'évolution de la gouvernance, c'est que tout le monde soit déjà bien au niveau et que le niveau de compréhension de ces enjeux soit vraiment partagé, à la fois dans sa globalité, mais aussi dans ces enjeux les plus techniques qui ont été largement évoqués jusqu'à maintenant. Donc, notre difficulté, c'est de s'assurer de bien segmenter là où on doit mettre nos priorités en matière d'accompagnement, de formation. Je dirais de test and learn pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point va porter sur l'évolution même de la gouvernance de la durabilité au sein de nos entreprises. Ça, c'est un point majeur et clé. Et ce n'est pas encore complètement tranché, puisque en fait, les pesées des enjeux, y compris en termes d'impact business, sont encore en construction. Et enfin, Le troisième, alors c'est pas une opportunité, pour moi c'est une contrainte positive, mais une contrainte quand même, qui est la formation et l'accompagnement de la distribution et la refonte de la manière dont on va maintenant avoir des relations avec nos clients. Et je conclurai en disant que la manière dont nous, assureurs, allons exercer nos métiers vont évidemment beaucoup, beaucoup évoluer. Je dirais que nous ne sommes plus maintenant de façon, nous ne l'étions pas complètement jusqu'à maintenant, mais en manière de trouver des solutions d'assurance, des véhicules financiers et de les construire et de mesurer leur impact de façon isolée. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir des stratégies partenariales beaucoup plus fortes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça veut dire que nous allons intégrer un certain nombre de parties prenantes dans un certain nombre de constructions de produits dans leur évaluation. On ne peut pas être jugé parti et les textes sont très clairs de ce point de vue-là. Et donc, du coup, ça va faire de notre secteur un secteur qui était ouvert, peut-être pas forcément bien perçu, mais encore plus ouvert qu'il ne l'était sur la société. Moi, je dis souvent que on parle de développement durable de l'assurance, c'est un gros pléonasme parce que nos métiers, que ce soit en vie ou en non-vie, sont impactés par tout ce qui se passe sur la planète. Peut-être plus, et je fais pas de compétition avec le secteur bancaire, mais plus que peut-être la banque. Et donc, du coup, ne pas intégrer ces enjeux dans la façon dont on exerce nos métiers désormais, compte tenu des urgences, c'est presque à la limite de la faute professionnelle. Donc, j'y vois aussi, et pour terminer sur une note très positive, et je le vis en interne et lorsqu'on a des processus de recrutement, on redonne un sens à nos métiers qui sont extrêmement attractifs vis-à-vis des jeunes sur ces sujets-là. Et donc, du coup, c'est vrai que même si c'est pas le secteur qui était le plus glamour en termes d'attractivité, sur beaucoup de métiers en tension, on retrouve un enthousiasme pour les populations, pas forcément les plus jeunes, sur ces sujets, et donc des facteurs d'engagement et de mobilisation qu'on n'avait pas forcément jusqu'à maintenant. Et voilà, donc je pense que c'est un défi, c'est une opportunité qu'il faut vraiment lever, ne pas hésiter à communiquer sur ce qu'on fait sur ces sujets, parce que c'est un facteur de très forte attractivité, de mobilisation et d'engagement, et on va en avoir besoin pour relever tous ces défis techniques, mais pas que.
Merci François de ces pistes que tu as ouvertes. Chacune nécessiterait un dégagement d'une journée, mais on n'a pas le temps nécessaire. Merci aussi quand même de ces messages un peu d'espoir et d'espérance qui montrent que même si le sujet est compliqué, même s'il va falloir beaucoup travailler, même s'il va falloir dépenser du temps et de l'argent, on a quand même des perspectives positives pour l'avenir et notamment en termes d'attractivité du secteur vis-à-vis des jeunes, mais peut-être aussi des moins jeunes. Vincent, est-ce que vous partagez le point de vue développé par François sur la mise à niveau, le besoin d'accompagnement, l'évolution de la gouvernance, la stratégie partenariale, pour reprendre les principaux points développés par François?
Oui, je souscris tout à fait à ce que dit François, c'est-à-dire que ces réglementations, même si elles sont douloureuses à mettre en œuvre, font rentrer la durabilité de manière sérieuse et vraiment enracinée dans nos différentes organisations. Et je le vois au niveau des rémunérations qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, pour la première fois, le comité exécutif de CNP aura des objectifs variables, individuels, liés à des sujets de durabilité dans la... Tout ce qui est rémunération collective sous forme d'intéressement, on mettra aussi de manière obligatoire des objectifs de durabilité. Et ensuite, on espère que ça cascadera donc des membres du comité exécutif à leur manager et ensuite aux collaborateurs. J'en veux pour preuve l'intégration de la data ESG qu'on a beaucoup évoquée, qui était avant un sujet de spécialiste qui devient cœur pour toutes sortes de métiers, hein, pour nous, pour les investissements, pour les relations avec les partenaires, les reporting clients. Et donc, il y a des vrais enjeux devant nous d'urbanisation de nos systèmes d'information pour collecter cette donnée et nous, en tant qu'assureurs, collecter les fameux fichiers FinDatex que produiront les asset managers sur les fonds dans lesquels nous sommes investisseurs. Et peut-être, et bien plus importante, je pense, c'est que ces sujets de durabilité qui étaient plutôt côté investissement vont côté produit de manière très nette, hein, avec la DDA. Aujourd'hui, on réfléchit avec les équipes marketing sur c'est quoi un produit durable en 2022. Et ne serait-ce que poser cette question n'appelle pas une réponse évidente, puisqu'on a des différents critères. On avait avant les labels, ISR, Greenfin, Financial. On a maintenant des classifications SFDR, bien sûr pas des labels, et qui sont auto-attribués. On a des pourcentages d'alignement taxonomie ou SFDR. On a la prise en compte des PAI. Et donc, c'est très difficile de savoir ce qu'un client comprendra de tout ça, voudra. Et qu'est-ce qui fera que nos produits seront plus compétitifs à partir d'août 2022. Donc, en tout cas, voilà, c'est des effets positifs qui montrent que la durabilité se diffuse, et c'est ouais.
Très bien. Oui, effectivement, moi je crois beaucoup à l'effet de levier de la rémunération. C'est quand même un signal clair vis-à-vis des équipes de savoir qu'une partie, toute ou partie de la rémunération va être articulée sur des éléments liés à la durabilité. Je vois aussi, et ça fait partie aussi des directions qui sont impactées, vous avez Vincent cité la direction marketing, donc on voit qu'il y a la direction des risques, il y a la direction juridique, il y a la direction marketing, la formation, certainement, le volet RH est extrêmement important. Quel est le point de vue de la fédération professionnelle, Elena, est-ce que vous partagez ce qui vient d'être dit? Est-ce que vous pouvez compléter, vous qui avez une vision globale au travers de vos adhérents?
Alors, je partage tout à fait ce qui a été dit. Effectivement, il est indispensable que toutes les directions se saisissent de ces sujets. Il y a un enjeu de formation qui est très, très, très important au niveau de chaque entité pour tous les salariés, toutes les directions. Quand on regarde aujourd'hui, toutes les directions sont impactées, que ce soit la direction RH, les systèmes d'information avec des budgets très conséquents à débloquer pour mettre en place toutes ces réglementations, les directions marketing pour concevoir des nouveaux produits. Donc, on l'a abordé dans la table ronde précédente sur la DDA, donc l'intégration des objectifs dans la conception et la gouvernance des produits, c'est fondamental. Donc, on est vraiment dans des changements très importants. Donc, la formation est indispensable, la formation des réseaux, la sensibilisation du public aussi, on l'évoquait en tout début de table ronde. Et donc, avoir une organisation qui permette de bien piloter tous ces enjeux à chaque niveau, c'est indispensable. Donc, je partage complètement les propos qui ont été tenus et qui sont ceux de l'ensemble de la classe.
Merci. Karen, est-ce que du côté de la banque, la situation est très différente ou est-ce qu'on a des points de convergence par rapport à ce qui a été dit côté assurance?
Non, moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, hein. C'est exactement la même chose quel que soit le type d'établissement financier, et c'est pareil pour les banques. On est à une période où cet ensemble de réglementations, en particulier en Europe, hein, c'est très européen ce que je dis, parce qu'attention, on n'est pas du tout dans le même cas de figure aux États-Unis, par exemple, où la double matérialité n'est pas du tout dans les textes réglementaires. Hein. Donc, je fais ce petit bémol, mais sinon, dans le secteur financier, dans son ensemble, et dans les banques en Europe, cette avalanche réglementaire, il ne faut pas perdre de vue ce pourquoi elle a été faite, et elle remplit son rôle, en fait. Hein. C'est complètement transformant pour les établissements financiers. Aujourd'hui, quels que soient les métiers, que ce soit, j'en parlais tout à l'heure, les fronts avec les vendeurs, les structureurs, la relation client, les risques conformité, la communication, les RH avec des enjeux de formation, les SI bien entendu pour adapter les systèmes, la finance parce que au final tous ces reporting, c'est la finance qui va les faire. Je suis sûre que j'oublie des départements, mais non, c'est complètement transformant à tous les niveaux. Donc oui, tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. On vous entend plus, Michel.
Non, mais excusez-moi, mais comme j'ai du bruit autour de moi, je coupe mon micro chaque fois que je ne parle pas. J'espère que ce n'est pas trop perturbant pour tout le monde. Oui, avant de passer à l'autre question que je voulais vous poser, j'ai vu parmi les questions sur le chat, et il y en a une qui concerne, on peut peut-être en une minute ou deux essayer d'y répondre, quel est le degré d'implication des directions achats dans les investissements durables? Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose là-dessus? Est-ce que ça paraît évident? Évidemment, la direction achat ou les directions achats seront sont aussi concernés. Qui veut répondre? Peut-être qu'on ne va pas faire un tour de table.
Non, mais très rapidement, pour vous donner un éclairage, sur les achats classiques, les stylos, les PC, etc., il y a maintenant des guidelines internes dans chacune de nos structures qui sont en ligne. Le vrai sujet, le plus matériel sur les achats, c'est ça a plutôt touché non pas les équipements qui me permettent de fonctionner, mais plutôt ce que j'appelle les achats assurantiels en matière d'indemnisation, parce que les vrais enjeux en matière de montants sont là. Et donc là, il y a un travail à faire qui est très très lié en fait au sujet de la durabilité. Je pense par exemple à tout ce qui est réemploi de pièces automobiles, réparer plutôt que remplacer, et ça va plutôt toucher effectivement les fonctions indemnisation. Et donc là, je pense que du point de vue sectoriel, il y a de vrais enjeux parce que là, on a des vrais leviers puissants qui sont cœur de métier du point de vue de l'assurance. Donc les achats tradis, non, enfin c'est pas le sujet. Par contre, les achats assurantiels liés à l'indemnisation, puisque voilà, on en fait de plus en plus, c'est plusieurs milliards d'euros par an. Donc là, je pense qu'il y a un vrai levier. Et donc du coup, c'est vrai que c'est pas tellement dans le scope de tout ce qu'on a pu échanger jusqu'à maintenant. Mais à mon avis, pour le secteur de l'assurance, demain, c'est là où on va être le plus matériel et le plus concret vis-à-vis de nos clients.
Merci François de cette vision. Est-ce que les autres intervenants ont envie de compléter ce qu'a dit François, ou sinon on va passer à l'autre question que je voudrais vous poser? Non, tout le monde est d'accord là-dessus. Côté de la banque, il n'y a pas de souci.
C'est pas vraiment le sujet en fait, les achats. Hein. Comme le disait François, les achats traditionnels, c'est intégré, et en plus depuis assez longtemps dans les banques. Le sujet principal des achats, ça va être tout ce qui est matériel informatique. Et c'est vrai que les enjeux de RSE sont intégrés en France depuis très longtemps. Donc c'est pas vraiment le sujet. Dans nos secteurs financiers, le sujet principal, ça va être de suivre la chaîne d'approvisionnement de nos clients plutôt. Mais là, c'est pas la fonction achat qui s'en occupe. Ça va être la mise en œuvre du devoir de vigilance pour aller regarder quels sont les enjeux d'approvisionnement sur l'ensemble de la chaîne de valeur pour nos clients.
Merci de cet éclairage. Je vous propose qu'on passe à l'autre question que je voulais vous poser. On va vous apparaître la slide qui s'y rapporte et qui concerne le greenwashing. Plusieurs régulateurs, plusieurs superviseurs s'inquiètent et même l'ESMA en dernière date dans le cadre de sa roadmap finance durable 2022-2024 met en avant un risque potentiel de greenwashing. Vous avez peut-être vu aussi un article, je crois, de quelques jours, peut-être même hier, dans les Échos, qui donne la parole à Morningstar, qui alerte sur la mise en œuvre du SFDR, notamment la mise en œuvre de l'article 8 et l'article 9, en disant qu'il y a potentiellement des risques de confusion, voire de greenwashing. Est-ce que vous partagez ce point de vue, et comment, je suppose, vos établissements mettent tout en œuvre pour éviter de se faire épingler par les parties prenantes autour de vous? Qui veut commencer? Karen, peut-être?
Oui, si tu veux, Michel. Moi, je pense que c'est un vrai sujet, le greenwashing. Il y a deux sujets. Il y a le risque de greenwashing et il y a le risque de perception de greenwashing. Le secteur financier n'est pas immunisé contre le greenwashing. Il y a des tentations. Je voyais encore récemment le financement d'un aéroport qui se dit neutre en carbone. Un aéroport neutre en carbone, ça n'existe pas, hein, soyons clairs. Donc oui, ça c'est un peu caricatural, mais il y a d'autres exemples qui sont un peu plus subtils. Donc il y a un vrai sujet de risque de greenwashing. C'est tout à fait normal que les superviseurs se saisissent du sujet. Et il y a un autre risque qui est la perception de greenwashing par les, notamment les clients et les clients épargnants en dernier ressort. Et c'est un petit peu, ça rejoint un petit peu le sujet que j'évoquais tout à l'heure sur la lisibilité en fait des informations qui sont données aux investisseurs finaux, aux clients finaux. Parce que là, il y a un vrai risque, c'est-à-dire en étant dans les clous de la réglementation, on voit bien avec l'intégration notamment du gaz dans la taxonomie, avec des produits qui vont pouvoir avoir une part d'activité non durable, donner le sentiment à des clients finaux que ce dans quoi ils investissent n'intègre pas complètement les critères d'exclusion qu'ils auraient voulu y voir, par exemple. Donc, c'est deux sujets qui sont complètement séparés, c'est-à-dire qu'il y a le vrai greenwashing, en quelque sorte, mais il y a aussi la perception que pourraient avoir les clients finaux sur le fait que certains produits, alors je pense essentiellement aux produits d'investissement, donc je vais laisser la parole aux assureurs, mais côté distribution, c'est vrai que les banques sont en première ligne parce que ce sont les produits que nous distribuons. Donc, si il y a perception des clients finaux épargnants qu'on leur a vendu des produits dans lesquels il y avait des investissements qui n'avaient pas lieu d'y être, de type, je ne sais pas, énergie fossile, tabac, etc., c'est un vrai sujet. Et c'est en général le distributeur qui est en première ligne avec le client là-dessus. Donc double risque, je dirais. On ne vous entend pas, Michel.
J'arrive pas à gérer mon micro comme il faut. Désolé. Oui, je dis que merci, Karen. Tu as parlé du rôle des assureurs dans ce domaine-là. Eh bien, on va leur donner la parole. On va peut-être demander à Vincent de nous dire ce qu'il pense du risque de greenwashing dans ces métiers, peut-être aussi dans la communication des uns et des autres, qui peut être un vecteur de greenwashing.
Oui, comme tout le monde, on est vigilant à éviter ce risque de greenwashing et je partage le point de vue de Karen que les sujets ESG sont très vastes, hein, ce n'est pas que des sujets d'environnement, il y a des sujets sociaux, des sujets de gouvernance. Et dans les sujets environnementaux, il y a différents objectifs environnementaux. Donc, c'est un sujet vaste qu'on résume souvent à la finance verte, mais qui est beaucoup, beaucoup plus complexe. Et on peut avoir des mauvaises interprétations. Par exemple, on peut avoir un produit financier qui est article 9, qui a un objectif social, investissement durable social, et qui a 0% investi dans la taxonomie européenne. Mais c'est normal puisque c'est une taxonomie environnementale. Donc, Mais voilà, si on fait une lecture, on va se dire, il nous dit que c'est durable et puis c'est pas, il y a 0% d'investissement durable. De même, dans les fonds euros, les assureurs vie doivent depuis cette année dire quelle est la part des investissements dans des fonds labellisés ISR, Greenfin, Financial. Ce pourcentage peut être très faible et souvent très faible ou nul. Tout simplement, si on investit en direct dans des actions, des obligations, on n'a pas d'investissement dans des fonds labellisés. Ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas une politique d'investissement responsable. Donc, il y a des signaux envoyés par ces indicateurs réglementaires qui peuvent être mal interprétés et portés à confusion.
Merci. Écoutez, greenwashing, là aussi, on pourrait dire beaucoup de choses. Je propose, parce que comme le temps avance, de donner la parole à Arthur Campredon qui va nous donner une petite sa vision de ce qui vous attend, ce qui nous attend dans les jours ou les mois qui viennent, quelles sont les prochaines étapes, est-ce qu'il faut s'attendre à une pause ou une accélération. Voilà, Arthur, à vous.
Oui, bonjour Michel, merci beaucoup pour me donner la parole. Alors, du coup, avant de vous présenter un petit peu ce qui attend au cours des prochaines années, j'aimerais juste vous rappeler que nous, côté Direction Générale du Trésor, ministère de l'Économie et des Finances et même l'Union Européenne, je pense que c'est important qu'on se concentre tous collectivement sur l'implémentation de cadres tels qu'on l'a élaboré depuis maintenant 2018 et même avant en France. Donc je pense que c'est important qu'on arrive dans ce premier stade à au-delà de, avant de penser à ce qui vient après, se concentrer vraiment sur la finalisation du cadre et savoir comment est-ce que sur tous les textes on prévoit une entrée en application du coup progressive, smooth et qui puisse du coup accompagner un peu l'ensemble de la partie prenante. Alors du coup ça me fait lien avec du coup les prochaines étapes concernant notamment la taxonomie. Alors, ce qui attend au cours des prochains mois, on a la publication du coup du reste du corpus réglementaire pour arriver à finaliser le texte, parce que comme vous savez, du coup, on a un texte de niveau 1, ce qu'on appelle du coup le règlement en tant que tel, qui est complété du coup par différents ce qu'on appelle actes délégués ou niveau 2 de la réglementation qui viennent du coup expliciter et dans le cas d'espèce du coup les critères d'examen technique, les TSC, pour les six objectifs de la taxonomie. Là, on attend encore les critères pour les 4 objectifs environnementaux. Donc on a déjà traité les 2 climatiques, on attend maintenant les 4 environnementaux. On devrait avoir un rapport de la plateforme sur la finance durable qui est du coup le conseiller technique entre guillemets de la Commission européenne dans les prochaines semaines. Et suite à ce travail-là, la Commission européenne va mener un peu toutes les consultations nécessaires et ensuite reprendre à son compte et proposer un acte délégué là-dessus. Donc là-dessus, on est vraiment sur la finalisation de la taxonomie. On a aussi un acte délégué complémentaire qui est en cours de non-objection au sein du Conseil qui traite du nucléaire et du gaz. Je n'y reviendrai pas pour des raisons de timing, mais c'est aussi important. Pour rester sur la taxonomie, ce qui vient un petit peu aussi plus tard, c'est des réflexions un petit peu plus structurelles sur le rôle de la taxonomie et comment est-ce qu'on fait évoluer ce cadre-là. Et ça, c'est plus à long terme, et là-dessus, j'ai vraiment envie de vous rassurer. On ne compte pas du coup tout renverser cette année, mais commencer des réflexions importantes sur des sujets que vous avez mentionnés d'ailleurs, qui sont importants, notamment le caractère binaire de la taxonomie. On a une part verte, mais quid de la part grise, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Donc il y a des réflexions en cours là-dessus. Pour nous, c'est important, nous, côté Trésor, c'est un sujet qu'on aimerait vraiment beaucoup pousser dans le cadre de la taxonomie, mais aussi dans d'autres cadres, un petit peu plus nationaux ou alors même européens, qui est le sujet de la transition. Pour nous, c'est vraiment important de venir préciser comment est-ce qu'on accompagne l'économie dans la transition qu'elle doit faire pour s'aligner sur les grands objectifs climatiques, biodiversité, etc. et la neutralité carbone en 2050. Pour nous, c'est vraiment important de développer cet aspect-là, parce que la taxonomie, en tant que telle, est un outil vraiment très utile, j'en suis persuadé. Mais il faut venir préciser cette part grise. On a des réflexions en cours. Beaucoup d'acteurs aussi privés nous ont fait part de leurs réflexions en cours qui sont vraiment très utiles. Nous, on compte rebondir sur le rapport de la plateforme, encore une fois, qui devrait être publié dans les prochaines semaines pour relancer, dans le cadre de notre présidence française de l'Union européenne, des réflexions un petit peu structurelles à moyen terme sur comment est-ce que la taxonomie et le cadre réglementaire de manière générale appréhendent mieux cette sujet de la transition. Donc là-dessus, je pense que c'est important que vous ayez bien ça en tête. Ensuite, très rapidement, du coup, sur les textes en cours de négociation, vous avez 2 textes qui sont en cours de négociation, enfin un peu plus, mais 2 textes assez structurels qui sont en train d'être finalisés et sur lesquels on prévoit du coup une entrée d'application progressive une fois qu'ils seront adoptés. On a le standard d'obligation verte qui vient du coup réglementer un marché de manière un standard volontaire, hein, ça c'est un point important, qui vient du coup réglementer un marché qui est du coup en pleine expansion, en pleine explosion, avec du coup la mise en place et la proposition de meilleures pratiques, une espèce de gold standard qui servirait de référence à la fois pour les émissions qui seraient du coup labellisées selon ce standard et celles qui ne seraient pas. On a aussi, on en a beaucoup parlé, la révision de NFRD, donc la grande directive RSE, avec une approche générale qui vient d'être du coup L'approche générale, c'est un terme un petit peu technocrate, mais pour dire qu'en gros, côté conseil, nous, on a adopté notre vision de CSRD. Le Parlement européen fait la même chose de son côté en ce moment même, et on espère atterrir assez prochainement, peut-être sous présidence française, à un texte finalisé sur CSRD qui est vraiment important pour améliorer la comparabilité. On en a beaucoup, beaucoup parlé, la comparabilité des données et leur pertinence, et puis même leur qualité. Donc, rapidement aussi, vous avez deux autres textes qui sont en cours de négociation. On en a un petit peu parlé. ESAP, donc qui est une base de données du coup centralisée, qui nous semble important pour les données financières, mais aussi extra-financières, et ça c'est vraiment important et c'est structurel. Et on a aussi tout ce qui est devoir de vigilance, on en a aussi brièvement parlé. Alors moi je voulais juste m'attarder sur deux sujets qui me semblent assez importants, au-delà du coup de la transition, qui est du coup un sujet assez structurel, c'est la finalisation du cadre de reporting, de disclosure. Nous on a vraiment envie de travailler côté Trésor, on pousse la commission dans ce sens-là, à faire une grande réflexion sur comment est-ce qu'on rend un petit peu harmonieux tout ce cadre réglementaire qui s'applique aux institutions financières. Donc moi, je parle en gros de SFDR, qui a été interprété par le marché comme des catégories de produits article 8 et 9, qui répond assez mal aux catégories de produits qui ont été définies dans IDD et MiFID, les catégories ABC, et qui lui-même répond assez mal à tous les labels, qu'ils soient français ou européens, qui sont en train d'être développés. En fait, nous, notre objectif côté Trésor, c'est de pousser la Commission à faire une réflexion de type structurel à comment Est-ce que ces textes peuvent mieux se répondre? Est-ce comment est-ce qu'on peut faire répondre des catégories de produits? Est-ce qu'on comment on s'insère dans ce cadre-là les différents labels qui sont proposés par le marché et par les autorités publiques, etc., etc. Et je pense que là-dessus, une réflexion qui va du coup nous permettre d'avancer, c'est tout ce qui est, on se parle ce qu'on appelle la doctrine AMF, position qui pousse en faveur vraiment de standards minimum ESG. C'est-à-dire, on va aller définir ce que c'est qu'un produit ESG, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est pas très bien défini dans les textes. On voit que l'interprétation des articles 8 est différente d'acteur en acteur, etc., etc. Donc vraiment, c'est une réflexion qu'on a envie de pousser. Et on veut vraiment mettre tout sur la table et dire, ben voilà, on va faire un cadre un peu plus cohérent qui se répond un petit peu mieux. Il y a aussi ce momentum biodiversité dont on a un petit peu parlé avec l'article 29 LEC, dont on va continuer à entendre parler parce que la TNFD publie aujourd'hui même sa version bêta, c'est-à-dire un standard de reporting international sous la forme d'une version bêta qui sera publiée aujourd'hui et du coup qui, je l'espère en tout cas, fera une référence de marché pour du coup le reporting biodiversité. On a aussi du coup la COP15 qui a commencé phase de prénégociation qui a commencé lundi, donc hier à Genève, et qui du coup se finalisera cette année du coup en Chine au cours de l'été. Et donc vraiment on a ce momentum biodiversité, je pense qu'on a vraiment beaucoup de retard sur le sujet, ça a été priorisé par le président Macron et du coup on aimerait vraiment pouvoir avancer sur ce sujet-là. Et enfin, donc très rapidement, parce qu'on manque beaucoup de temps, on a aussi du coup, et je vous invite à aller voir toutes les initiatives qui sont publiées dans ce qu'on appelle la stratégie finance durable renouvelée, qui a été publiée par la Commission européenne. Vous pouvez aller voir directement sur le site le 6 juillet 2021, et du coup qui fait une référence de toutes les prochaines étapes que ça change du cadre finance durable. Et ça me permet du coup de répondre très rapidement à une question qui était posée dans le chat et qui est pertinente, et ça permet de la généraliser, c'est-à-dire où est-ce qu'on va trouver un petit peu toutes ces guidances, où est-ce qu'on va trouver tous ces éléments un peu de soft law qui viennent préciser le cadre réglementaire. Malheureusement, ils ne sont pas disponibles sur le site du Trésor, mais vous avez par exemple, je pense à deux sites, le site de l'AMF et le site de la CPR, et puis également le site de la Commission européenne qui structure et par sujet vient référencer un petit peu tout ce qui est niveau 2, niveau 3 de la réglementation, guidance spécifique à la fois des acteurs privés et puis même des acteurs publics, etc. etc. Voilà, donc très rapidement, en tout cas, moi je voulais vraiment insister sur ce sujet-là. On veut vraiment dans une phase d'implémentation et puis du coup penser à comment améliorer ce cadre à moyen terme et puis traiter aussi des grands sujets qui vont émerger comme la biodiversité à plus long terme. Voilà.
Merci Arthur sur cette précision, sur ce panorama. Ce qui me paraît important, c'est ce que vous avez dit, notamment à la fin, le reste aussi, concernant les efforts sur le reporting, parce que je pense qu'il y a une espèce de risque de confusion, et je crois que ces travaux-là seront les bienvenus et seront accueillis avec beaucoup de bienveillance et par les acteurs. Juste avant de passer à la dernière... le dernier temps de notre table ronde. Juste une question, Karen, je crois que tu souhaitais dire quelques mots sur la transition.
Karen. Oui, merci. Merci Michel. Je voulais rebondir sur ce que nous disait Arthur sur la transition, parce que c'est vraiment, côté bancaire, on considère que c'est vraiment le sujet de fond. Et on a mené, coordonné par la FBF avec l'ensemble des banques, un gros travail sur la notion de transition et la mesure de la transition des entreprises, qui est effectivement complètement, pas complètement, mais globalement absente de la taxonomie aujourd'hui, comme Arthur l'a rappelé, où on reste dans une taxonomie qui est binaire. Alors ce qu'Arthur appelle la zone grise, c'est en fait le bulk, hein, c'est la majorité de l'économie. Et donc il faut pas perdre de vue en fait dans cette avalanche réglementaire ce pourquoi tout ça a été fait. Le but, c'est bien de permettre la transition vers une économie durable en Europe et plus globalement. Et la grande majorité de notre économie aujourd'hui est dans cette zone grise. Ce que couvre la taxonomie, le pur vert ou le vert foncé, comme on entend souvent, c'est une petite partie de l'économie qui a vocation à grandir, mais qui reste aujourd'hui une petite partie. Et la très grosse majorité de l'économie, ce sont des activités émissives qui ont besoin de transitionner, et dans des secteurs qui sont peu ou parfois pas couverts par la taxonomie. En tout cas, la taxonomie aujourd'hui ne permet pas la prise en compte du volet transition notamment à l'échelle des entreprises et des entreprises dans les secteurs les plus émissifs qui ont besoin de faire cette transition. Donc, il y a vraiment un besoin, et ça va vous paraître curieux parce qu'on vient de parler d'avalanche réglementaire et du coup, on appelle peut-être pour une réglementation supplémentaire. Est-ce que c'est la taxonomie? Est-ce que c'est CSRD? Est-ce que c'est encore autre chose? À la limite, peu importe, mais il faut qu'on ait à un moment une définition commune de la transition des entreprises dans les secteurs les plus émissifs. On a un modèle en France, enfin une méthodologie en France qui est très bien, dont on pourrait s'inspirer au niveau européen, qui est la méthodologie ACT développée par l'ADEME, qui est peut-être pas parfaite, mais qui a le mérite d'exister et qui raconte bien l'histoire de la transition. Donc, nous, c'est vrai qu'on pousse vraiment, et je crois que la DGT était assez preneuse de tous ces travaux, et donc on met un grand espoir dans la capacité de la France à pousser ce sujet au niveau européen pour que la transition soit mieux prise en compte, parce qu'aujourd'hui, ce qu'ont besoin de faire les acteurs financiers, et en particulier les banques, c'est de financer tous ces acteurs qui ne sont pas encore aujourd'hui éligibles à la taxonomie, mais qui sont qui mettent en œuvre la transition, et qui en tout cas ont besoin de mettre en œuvre la transition, et qui ont besoin de financement pour ça. Et on parle notamment des secteurs les plus émissifs.
Merci Karen, tu as tout à fait raison d'insister sur ce point qui me paraît assez capital, et je sais que c'est une préoccupation que partage la direction du Trésor, je ne vais pas parler à la place d'Arthur. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vous propose qu'on passe, parce que le temps, on arrive quasiment à la fin de notre conférence, mais on va déborder un peu, je pense, si vous en êtes tous d'accord. Juste une dernière question en ce qui me concerne. J'aimerais que chacun, très brièvement, même s'exprime sur ses attentes, sachant qu'en creux, vous nous avez déjà dit beaucoup de choses sur vos attentes, mais est-ce que vous pourriez les résumer? Allez, on va redonner la parole aux assureurs. Est-ce que, Léna, est-ce que du point de vue de la fédération, est-ce que vous avez des attentes? Vous m'entendez? Oui,
oui, très bien. Donc, je pense, je rejoins tout à fait les propos de Karen. La transition, le financement de la transition font partie de nos travaux en ce moment et de nos préoccupations, enfin en tout cas, point d'attention majeur pour le futur, comment financer les entreprises en transition, comment prendre en compte tout cela, c'est essentiel. Donc, tout d'abord dans les travaux et ensuite dans la transparence, donc avec la CSRD, et les reportings extraits financiers qu'il va falloir fournir. Et peut-être deuxième point, du coup, sur ce sujet de réglementation, ça rejoint ce que disait Arthur, c'est de mettre en cohérence tous ces textes, mettre en cohérence ce qui existe dans les définitions, pour en fait aider à la sensibilisation, aider à la formation, avoir une cohérence sur les textes, mais aussi dans les textes à venir. Je pense à CSRD, je pense à l'ESA, on est sur des calendriers qui ne semble pas encore parfaitement concordant aujourd'hui. C'est quand même indispensable que tout ça soit fait de manière concordante pour que ça soit bien mis en œuvre. Donc, une cohérence à la fois, une peut-être interprétation qui est nécessaire, commune, sur les définitions qui sont déjà dans les textes, dans le dur aujourd'hui, et puis aussi une cohérence dans ce qui va être négocié, dans ce qui va être produit dans le futur pour qu'on soit tous prêts à bien mettre en œuvre dans les prochaines années.
Merci Elena. Est-ce que Vincent, vous souhaitez rajouter quelque chose à ce que Elena vient de dire? Vous avez des attentes
particulières? Si je devais résumer les deux attentes principales, ça serait comme on l'a dit, c'est de faire un bilan dans un ou deux ans de la pertinence des informations que nous sommes tous amenés à publier, que ce soit les entreprises, les investisseurs, les distributeurs. Et de s'assurer que les clients finaux particuliers qui ne sont pas des professionnels et aussi les clients professionnels type voilà, un assureur qui achète un fonds article 8 a peut-être envie de certains éléments qui n'intéressent pas le grand public. Donc ça, je pense que c'est indispensable. Et la deuxième demande qui avait été évoquée en tout début par Elena, c'est le traitement de la dette souveraine, puisque aujourd'hui, c'est entre 40 et 50% du portefeuille d'un assureur vie en Europe. Et on est dans une zone noire où les États ne s'imposent pas eux-mêmes ce qu'ils demandent à tous les autres acteurs, c'est-à-dire quel est leur alignement avec la taxonomie. Et on pourrait imaginer que voilà, on dise la part du PIB de chaque pays en Europe, en tout cas, qui soit issu d'activités alignées avec la taxonomie, et dire que c'est ça le KPI que publie un État, ça, ça nous aiderait. Et je pense que ça, ça permettrait aussi que nos portefeuilles de dette souveraine transitionnent vers le financement de, d'activités durables.
Bien, merci. Arthur, ça vous donne un chantier de plus à initier ou à poursuivre. François, est-ce que tu as un point à rajouter à tout ça? Allô, François, tu es là?
Vous m'entendez?
Ouais, ouais.
Oui, je vais en rajouter une. C'est vrai qu'on est un secteur où, en théorie et en pratique, on s'engage essentiellement sur le long terme. On est tous d'accord. Pour autant, la tyrannie du court terme fait que on n'est pas toujours au rendez-vous des sujets clés. Et je voudrais en évoquer un. Bien qu'on soit dans un secteur, je parle de l'assurance, mais je pense que c'est pareil pour la banque, ultra concurrentiel. Je pense qu'on devrait paradoxalement prendre un peu de temps pour réfléchir collectivement sur les sujets sur lesquels on pourrait coopérer. Alors, je ne vais pas faire ma Miss France, tout le monde il est beau, il est gentil, mais je pense que le niveau d'investissement nécessaire sur un certain nombre de sujets, on parlait de la data, mais il y en a d'autres, nécessiterait qu'on prenne un peu de temps avec toutes les parties prenantes. J'inclus dessus évidemment la DGT, j'inclus le régulateur, peut-être d'autres parties prenantes, mais qu'on prenne le temps quand même, au-delà de la réorganisation, de la clarification, du bon ordonnancement de la réglementation et de son application, de voir s'il n'y a pas des sujets techniques ou pas sur lesquels on peut coopérer. Hein, c'était ce fameux concept de la coopération radicale ou la coopétition, c'est-à-dire on est concurrent, mais sur un certain nombre de sujets, il serait peut-être dans un intérêt économique et financier malin de pouvoir rassembler nos forces et peser sur un certain nombre de sujets. Et comme ça, naturellement, celui du provider et de la data me paraît évident, mais il y en a d'autres. Voilà.
Merci. Juste une question. Quand tu dis, oui, ça serait bien de coopérer ou développer la coopération sur un certain nombre de sujets à définir, tu verrais sous l'égide de quelle organisation réaliser ce travail?
Je ne vais pas faire référence au rapport Perrier, mais je sais qu'il y a des sujets qui sont, en termes de pilotage stratégique qui sont, et politique, qui sont évoqués. Comme ça, spontanément, moi, je verrais bien déjà situé au niveau fédéral, c'est-à-dire au niveau de nos fédérations, et de voir ensuite, par extension, les parties prenantes qui pourraient être agrégées. Je pense que là, il faut faire fi, mais avoir l'esprit assez ouvert pour dire, voilà, est-ce qu'il n'y a pas, des modalités où on pourrait être plus optimum, plus rapide, plus malin à plusieurs que tout seul. Et donc, du coup, je pense que ça n'enlèverait rien à la compétition commerciale auquel, de toute façon, dans laquelle nous nous trouvons, mais non, je ne pourrais pas dire un égide particulier, mais je pense que ça peut soit, alors il me semble avoir vu dans le domaine bancaire, il y a peut-être des alliances qui sont en train de se nouer pour construire peut-être des dispositifs de captation et de gestion de données, mais en tout cas, soit c'est plusieurs grands acteurs qui se mettent d'accord pour investir de manière commune sur un certain nombre de sujets, et puis après, un peu comme l'Europe, élargir les cercles concentriques, je ne sais pas. Et puis, de toute façon, c'est un sujet qui est aussi débattu à l'échelle européenne, hein, c'est évoqué, hein, sur le point d'accès unique sur les données, mais tout ça n'est pas encore très, 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 très clair, en tout cas, dans mon esprit. Mais non, j'ai pas une idée précise, mais je pense que ça peut se situer d'abord une réflexion globale au niveau fédéral, et puis élargir ça rapidement avec les acteurs, soit qui vont s'installer sur le sujet de la finance durable, mais ça dépassera de toute façon le sujet de la finance durable de mon point de vue. Mais commençons déjà sur la finance durable, qui est déjà un gros morceau.
Oui, je partage ça. Karen, est-ce que tu as juste quelque chose à ajouter qui n'aurait pas été abordé? Il doit y avoir plein de choses, mais enfin.
Il y a probablement plein de choses qui n'ont pas été abordées. Je vais peut-être juste répondre à François sur ce sujet de coopération, parce que c'est vrai qu'on a pris l'initiative, les trois fédérations assureur, asset manager, banquier, de faire des points réguliers sur tous ces sujets. Donc ça, c'est plutôt, on a peut-être anticipé un petit peu la demande, même si c'est déjà très compliqué de se... nous, on est en train de faire au niveau bancaire des travaux de convergence sur les méthodes de mesure d'empreinte carbone. Rien qu'au niveau des banques, c'est déjà compliqué. Donc arriver à se mettre d'accord sur l'ensemble de la place financière, ça le sera, mais on a bon espoir d'y arriver. Non, moi, je veux juste terminer sur... on a vraiment besoin de règles communes, robustes et transparentes au niveau européen, quels que soient les acteurs financiers, hein, qu'on soit banquier, gérant d'actifs, assureur. Donc on a un besoin de normalisation. Et il ne faut pas perdre de vue que toute cette avalanche réglementaire, elle n'est pas là pour nous embêter. Il ne faut pas la voir comme une charge de reporting uniquement, mais vraiment comme une source formidable d'opportunités pour que la finance durable continue à se développer de manière massive en Europe pour aboutir à ce pourquoi tout ça a été fait, c'est-à-dire une économie plus durable. Donc moi, j'ai bon espoir qu'on y arrive avec, je vais réutiliser les mots qu'Arthur mentionnait tout à l'heure, humilité, transparence, et puis coopération, co-construction. Donc je suis très optimiste.
Ok, ben écoute, merci Karen, c'est parfait pour clôturer cette deuxième table ronde, terminer sur ce message tout à fait positif, sauf si Arthur avait quelque chose à rajouter, mais je pense que on est à peu près au clair sur les attentes que vous avez les uns et les autres, et je pense que Arthur, est-ce que vous avez une minute réagir? Vous êtes d'accord, pas d'accord? Il y a des points qui...
Non, mais très très rapidement, juste pour dire que je m'inscris totalement en accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense qu'on est vraiment dans un environnement où tout ce cadre-là a été fait pour un objectif, et je pense que c'est vraiment important. Maintenant, si on agit tous collectivement pour y arriver, je pense qu'on peut vraiment y arriver, et je pense que c'est vraiment vraiment très important, encore une fois. Le cadre n'est pas parfait, les pratiques n'ont pas encore totalement émergé, mais voilà, je pense que ça va venir et c'est en train de venir. Et tout travail collectif que vous pouvez mener côté privé ou même en nous associant, le cas échéant, côté public, je pense que serait le bienvenu parce qu'on a besoin de se parler, on a besoin de faire émerger des bonnes pratiques, on a besoin de faire émerger des méthodologies robustes qui puissent répondre à l'enjeu de notre siècle, quoi, faire transiter notre économie. Voilà, je pense que parmi les outils disponibles, la finance durable en tant que telle, pas verte, mais durable en tant que telle, avec tout ce que ça comprend, est un élément vraiment essentiel. Et voilà, je pense qu'on va de l'avant et on va continuer et on est vraiment très 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 mobilisé côté Trésor et on compte bien de rester.
Bien, merci de cette convergence des points de vue et des bonnes volontés, parce que je crois que tout le monde est de bonne volonté dans cette affaire. Écoutez, je vais repasser la parole à Rami pour la période de conclusion. Rami, à vous.
Merci Michel, merci à tous. Hein. Je vais pas conclure parce que les dernières paroles qui ont été mentionnées par Karen, reprenant les paroles d'Arthur et la parole d'Arthur, me paraissent être une bonne conclusion. Peut-être insister sur, je pense, de mon point de vue, l'implication du privé et du public ensemble pour accélérer ce qui doit être fait, en fait. Hein. Mais merci à tous. Alors, il y avait des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, mais celles pour lesquelles on pourra répondre offline, on le fera volontiers. Et si vous avez encore un peu de temps, je parle aux participants, de répondre à un questionnaire de satisfaction, ça nous serait très utile. Voilà. Et ben, je vous remercie à nouveau à tous, c'était très très riche et intéressant.
Merci à tous aussi.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.